Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Ainsi soit-il.
Car aucun autre nom sous le ciel n'a été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. Mes très chers frères, que le nom du Seigneur soit béni. Ce dimanche, l'Église nous fait vénérer le très saint nom du Sauveur du genre humain, notre Seigneur Jésus-Christ. Nous venons de bénir le symbole de son nom, nous venons, tel que saint Bernardin de Sienne nous l'a donné, nous venons de nous prosterner devant lui, comme les genoux se prosternent dans les trois mondes, au ciel, sur la terre et dans les enfers, parce qu'au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, tout genou doit fléchir. Les mots nous manquent lorsqu'il s'agit d'honorer dignement par des paroles un si grand mystère que celui du nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le mystère de l'amour gratuit de Dieu et de notre salut. Alors nous allons, avec l'aide du Saint-Esprit, avoir examiné plusieurs choses dans ces textes très importants de la messe, de la fête du Saint-Nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Premièrement, nous allons voir l'importance de l'oraison, qui est une oraison assez longue et très importante, comme toutes les oraisons, mais enfin, cette oraison est très importante. C'est la révélation du très Saint-Nom de notre Seigneur Jésus-Christ, et toute la doctrine du médiateur y est contenue. Et nous verrons par la même occasion quel péché épouvantable c'est que de blasphémer le Saint-Nom de Dieu. Ensuite, nous nous poserons la question, que signifie vénérer son nom sur la terre? Nous verrons que c'est quelque chose que nous fait dire l'oraison. Et nous verrons quelle en est la conséquence dans les cieux et par ricochet, en quoi consiste l'enfer. Et enfin, en troisième point, nous verrons la doctrine que contient la prière, la dernière oraison, qu'on appelle la secrète, et comment nos noms ne sont qu'un dans le nom du Christ, notre Rédempteur. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Écoutez ce que dit l'oraison. Deus qui unigenitum filium tuum, Dieu qui avait constitué votre Fils unique, Humani generis salvatorem, le sauveur du genre humain, et Iesum vocari iusisti, et qui avait ordonné qu'il s'appela Jésus. Concede propitius, accordez-nous s'il vous plaît, ut cuius sanctum nomen veneramur in terris, afin que, donnez-nous de nous dont nous qui vénérons son très saint nom, son saint nom sur la terre, eius quoque aspectu perfuamur in celis. Donnez-nous, donc à nous qui vénérons son saint nom sur la terre, de pouvoir jouir de son visage, de sa vue, dans les cieux. Le Fils de Dieu était dans le sein de son Père de toute éternité. Il est l'unique bien-aimé du Père, engendré par lui, par la connaissance et l'amour que Dieu se porte à lui-même. Cette très sainte Trinité, ayant créé l'homme à son image, l'homme, comme vous le savez, mes très chers frères, a prévariqué. Il a désobéi à Dieu, il a mal usé des grâces que Dieu lui avait données dans l'état d'innocence, et c'est pourquoi Dieu a établi son Fils sauveur du genre humain. C'est pour cela qu'il est écrit « Ô Dieu qui avait institué, sauveur du genre humain, votre Fils unique engendré. » Nous savons que notre Seigneur Jésus-Christ est le sauveur du genre humain, puisque l'Église nous le dit. Et c'est ainsi les sauveurs, c'est qu'il est à la fois, comme nous disent les théologiens, puissance et remède. Il peut nous sauver et il nous sauve. Il peut nous sauver parce qu'il est vrai Dieu, il nous sauve parce qu'il est vrai homme, le seul homme sans tache qui a plu à Dieu, puisqu'il est consubstantiellement uni à sa divinité, à la divinité du Verbe, du Fils éternel de Dieu. Il est à la fois vrai Dieu et vrai homme, c'est la foi orthodoxe. Et c'est pour cela qu'il nous sauve. Dieu, dit l'oraison, a constitué son Fils unique, sauveur du genre humain. C'est-à-dire que, avant même que le genre humain soit tombé dans la personne de notre premier père Adam, Dieu avait décidé, dans la prévision de cette chute, que ce serait son fils unique, celui qui est l'objet de toutes ses complaisances, qui devrait réaliser la rédemption des élus. Il y a là quelque chose de tout à fait admirable que de voir que Dieu n'a pas été pris au dépourvu. Il n'a pas constitué son fils sauveur du genre humain dans la précipitation qui a suivi le fait de voir que Adam avait tout mis par terre, si j'ose dire. Notre Seigneur Jésus-Christ ne peut être que le sauveur du genre humain par rapport à nous, par rapport à l'être humain déchu, bien sûr, mais nous sommes déchus, donc c'est un fait. Notre Seigneur ne peut être, il n'y a que lui qui peut être le sauveur. Nul être humain ne peut sauver son frère, nous dit l'Écriture sainte. Pourquoi ? Parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Personne en Dieu ne peut, dans la très sainte Trinité, ne peut prendre la décision de sauver l'homme sans que la faute de valeur infinie, de portée infinie, qui a provoqué l'offense faite à Dieu, ne soit compensée. C'est-à-dire que, pour parler clairement, c'est-à-dire que le Saint-Esprit, dans la très sainte Trinité, pour parler, disons, d'une façon totalement absurde, ne pourrait pas dire « pardonnons à l'homme parce que c'est trop bête de ne pas lui pardonner ». Le Saint-Esprit, ni le Saint-Esprit, ni Dieu le Père, ni Dieu le Fils. Dieu veut pardonner, pourquoi ? Parce qu'il est tout amour. Il est l'amour donc qu'il se porte à lui-même. Mais cet amour est aussi justice. C'est pour cela que Dieu, voulant sauver le genre humain, a envoyé son Fils, né de la très sainte Vierge Marie, l'Immaculée Conception, afin qu'il soit le sauveur du genre humain, c'est-à-dire qu'il soit non seulement celui qui apporte aux hommes les bonnes nouvelles vis-à-vis de Dieu, un peu comme d'une certaine manière les prophètes, ou la parole vis-à-vis de Dieu, comme les prophètes, mais qu'il vienne lui-même assumer l'entièreté du péché de tous les élus, de telle sorte que, expiant, lui qui n'a rien à expier pour lui-même, le péché des autres, il puisse sauver ces autres que Dieu lui a donnés de toute éternité, et qui sont les élus. Vous voyez, mes très chers frères, voilà une petite partie de ce que signifie le début de cette oraison. Ô Dieu qui avez établi votre Fils unique, sauveur du genre humain. Ce n'est ni par hasard, ni par une nécessité que Dieu aurait tirée de la nature, mais c'est une sorte de nécessité dans la mesure où Dieu veut sauver, c'est une nécessité que le Fils soit envoyé. Le Père ne peut pas être le sauveur du genre humain. Le Saint-Esprit ne peut pas être le sauveur du genre humain. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas dans leurs attributions. C'est le Fils qui est le sauveur du genre humain. Nous pourrions parler des heures, des années sur ce sujet, mais évidemment, et encore bien moins bien que les grands théologiens, contentons-nous de dire ceci et de passer à la suite. Ô Dieu qui avez établi, qui avez constitué sauveur du genre humain, votre Fils unique engendré. Il l'a institué purement gratuitement afin de sauver les hommes qui avaient rejeté son alliance et qui avaient péché. Dieu peut non seulement nous sauver, veut non seulement nous sauver, mais il le peut. Et c'est pour cela qu'il a envoyé son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour cela que la suite de l'oraison dit « Et Iesum vocari iusisti » et qui avait ordonné, iubere iusisti, qu'il soit appelé vocari Iesum, Jésus. À strictement parler, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas un nom qui a été révélé a posteriori, c'est-à-dire que notre Seigneur n'est pas venu, connu sous un autre nom, et à un certain moment, son nom a été changé ou son nom a été révélé, un petit peu comme Saint-Pierre, qui s'appelait autrefois Simon, a été renommé Pierre par notre Seigneur lors de la fameuse confession de Saint-Pierre. Notre Seigneur n'est pas un ange qui cache son nom, parce qu'il est, d'une certaine manière, inutile que l'homme le connaisse, et il est trop glorieux pour que l'homme le connaisse. Comme l'ange, vous savez, cet ange, avec cet ange divin avec lequel Jacob a lutté, il lui dit « Quel est ton nom ?» Vous voyez, enfin, il ne lui révèle pas son nom. Lorsque la mère, le père et la mère de Samson demandent à l'ange qui vient annoncer à la mère de Samson qu'elle mettrait au monde son fils, il lui demande son nom, il leur dit « Mon nom est admirable. Pourquoi demandez-vous mon nom ? Mon nom est admirable. » C'est-à-dire, mon nom est un mystère. Donc, sous un certain rapport, Dieu ne fait pas connaître son nom, et, pour parler avec saint Denis, Dieu n'a pas de nom puisqu'il a tous les noms. Il est à la fois lion, agneau, feu, eau, et en même temps, il n'est rien de tous ces noms-là. Il a un nom ineffable, qui n'est connu que de lui-même, et son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, fait connaître le nom de Dieu dans la mesure où le nom de Dieu nous sauve. Et il porte lui-même le nom de Dieu, non pas comme un ange ambassadeur, mais comme Dieu, vrai Dieu de vrai Dieu, lumière de lumière, engendré, non créé. Il est véritablement le Fils éternel de Dieu, il est égal au Père. C'est pour cela que, lorsque le Père, envoyant son Fils pour être le sauveur du genre humain, ordonne à son Père et adoptif et à sa mère qu'il soit nommé Jésus, Dieu fait appeler son Fils incarné afin que son nom soit invoqué à salut. Nous n'ignorons pas quel est le nom du Fils de Dieu. Nous le connaissons, tout le monde le connaît aujourd'hui, le nom du Fils de Dieu. Eh bien, si nous connaissons son nom, c'est un privilège qui nous est donné afin que l'invoquant, nous puissions être sauvés. Selon la parole du prophète, en ces jours-là, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quel est le nom du Seigneur ? Le nom qui sauve, c'est le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que le nom ? Pourquoi Dieu a-t-il fait donner un nom à son Fils ? On pourrait dire, mais parce que tous les hommes portent un nom. Même l'homme le plus méprisable, même l'homme le plus malade, porte un nom. C'est vrai. Pourquoi donne-t-on un nom aux hommes? Parce que, disent les philosophes, c'est le nom, c'est la parole qui désigne adéquatement la nature. Alors plus ou moins, en fonction de la noblesse de la langue. Mais enfin, la doctrine du nom, c'est que le nom, ou le nom d'une chose, désigne sa nature. C'est-à-dire que quand on remonte dans les langues les plus sacrées, les noms ont quelque chose qui désigne adéquatement la nature de la chose. Dans nos langues profanes, nous n'avons qu'une ombre de cela, ça n'a pas totalement disparu, mais les langues sacrées sont justement sacrées, les langues profanes sont profanes. Le nom est donc l'appellation qui désigne le plus adéquatement la nature de la chose. Notre Seigneur n'aurait pas pu porter un autre nom que le sien, car son nom signifie « Dieu sauve » ou « Salut de Dieu ». C'est le nom du médiateur qui est unique. D'une certaine manière, notre Seigneur, comme on le voit dans beaucoup de cas, notre Seigneur a reçu un nom qui est en quelque sorte la détermination ou le programme de sa vie, si l'on peut dire. Vous voyez, certains patriarches ont changé de nom. Abraham a commencé à avoir des enfants lorsque une lettre a été rajoutée à son nom. Jacob, après avoir lutté avec l'ange dont nous avons parlé, s'est appelé Israël. Et ainsi de suite, beaucoup d'autres ont changé de nom en fonction de la révélation de leur destin et de la volonté de Dieu. Notre Seigneur n'a jamais changé de nom, il a porté le nom définitif qu'il a pour l'éternité dès le commencement, dès le huitième jour, lorsqu'il a été circoncis, qu'il a reçu son nom, il a reçu le nom que l'ange avait ordonné qu'il portât de la part de Dieu, Jésus. Ce nom est donc un nom béni, il est le nom de Dieu. Dieu a d'autres noms encore, je ne citerai pas parce qu'ils sont tout aussi sacrés de notre Seigneur, il ne faut pas les citer à tort et à travers. Il a d'autres noms, mais le nom de notre Seigneur Jésus est le nom du Dieu qui sauve. Les autres noms sont les noms du Dieu qui agit en faveur de son peuple, du Dieu qui juge, du Dieu terrible qui se cache, du Dieu qui fait justice. Le nom de Dieu en tant que sauveur, c'est notre Seigneur Jésus. C'est pour cela que l'oraison nous fait dire, vous avez ordonné qu'il portât le nom de Jésus. Et c'est pour cela que saint Pierre, confessant la foi en notre Seigneur devant le Sanhédrin, dit, car aucun autre nom sous le ciel n'a été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a qu'un seul nom par lequel nous puissions être sauvés, un seul nom, c'est-à-dire une seule désignation du Dieu qui veut et qui peut nous sauver, c'est Jésus. Vous allez dire, et le nom de Marie alors? Et pourquoi pas le nom de Joseph, etc. Ces noms-là sont associés au nom unique de notre Sauveur. Ce ne sont pas des noms par lesquels nous puissions être sauvés, ce sont des noms des plus puissants intercesseurs qui existent. La Très Sainte Vierge Marie, Saint Joseph, Saint Jean sont les plus puissants intercesseurs que nous puissions avoir, Saint Jean-Baptiste, sont les plus puissants intercesseurs que nous puissions avoir. C'est vrai, mais ils ne sont pas ceux qui nous sauvent. C'est le nom de Jésus qui nous sauve. Que demandons-nous à Dieu ? Concede quis propitius. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais nous passons rapidement. Concede propitius, c'est-à-dire, vous qui êtes miséricordieux, accordez-nous. Que, ut, cuius sanctum nomen veneramur in terris, eius quoque aspectu perfruamur in celis. Accordez-nous que nous qui vénérons ce nom sur la terre, ou plutôt dans les choses terrestres, eius quoque aspectu perfruamur in celis. Que nous puissions aussi jouir de sa vision, de sa vue dans le ciel. C'est par la grâce de Dieu que nous adorons le Sauveur qui est le nôtre, notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est par la grâce de Dieu, donc c'est la grâce de Dieu que nous invoquons et qui nous fait vénérer le saint nom de Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ, sur la terre. Ut, cuius, etc. Nous vénérons son nom sur la terre, d'où l'importance, mes très chers frères, et là je vais délivrer un enseignement assez important sur la vénération du nom de notre Seigneur Jésus-Christ ici-bas, d'où l'importance d'entourer des marques du respect le plus profond et le plus constant le nom de notre Seigneur. C'est une nécessité absolue, et si j'ose dire, surtout aujourd'hui, de tout temps. Mais surtout aujourd'hui. Pourquoi surtout aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas un aujourd'hui comme l'aujourd'hui de tout temps. C'est la modernité. Et en modernité, tout se dit, tout se sait, tout se dévalue, tout se galvaude. Et notre Seigneur, notre Père, lorsqu'il a fait donner ce nom à son Fils, si j'osais m'exprimer en des termes humains, a pris le risque qu'il fût profané. Évidemment, nul ne peut profaner le nom de Dieu, le nom inconnu de Dieu, le nom imprononçable de Dieu. Il en a plusieurs, mais nul ne peut le profaner puisqu'il ne peut pas être, il ne peut pas être prononcé. Néanmoins, vous savez très bien qu'il y a un juron extrêmement grossier qui consiste non pas à invoquer le nom de Dieu, mais à évoquer le nom de Dieu. Et c'est déjà, autrefois, nos grands-pères, nos grands-mères, considéraient cette expression qui nous semble extrêmement bénigne aujourd'hui, puisqu'elle ne fait que désigner, finalement, le fait que Dieu a un nom, et on le considérait comme un épouvantable blasphème, et souvent, si vous voyez dans les anciens livres, dans les romans, etc., enfin, il ne faut pas en lire, enfin, si vous en avez lu, vous en avez peut-être vu, vous avez vu que, des fois, lorsqu'un auteur fait jurer un personnage et qu'il dit ceci, ou dans un journal qui rapporte crûment les paroles des gens, il y a des pointillés. Parce que c'est un épouvantable blasphème que de parler du nom de Dieu sans respect. Que dire que d'invoquer le nom de Dieu, ou d'évoquer le nom de Dieu sans respect. C'est un épouvantable blasphème. Et si j'osais dire, n'allons pas trop dans l'éloquence et la disproportion, c'est un blasphème, point. Tout blasphème est épouvantable. Lorsque le chrétien cite le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, il doit faire une légère inclination de la tête. Pourquoi ? Parce que dans la liturgie, à la messe, lorsque le prêtre cite le nom de notre Seigneur, il fait une certaine inclination qui fait que l'inclination est plus marquée que pour le nom de la Très Sainte Mère de Dieu, par exemple. Une légère inclination de la tête qui entraîne un petit peu les épaules. Alors, on peut la réduire à une légère inclination dans une conversation en dehors de la messe, disons, si j'ose dire, mais il faut le faire. Alors vous allez dire, c'est gênant. On va pas, lorsque je parle de notre Seigneur à des mécréants et que je fais un petit signe de tête, ils vont rire de moi. Tout est gênant dans la religion, mes très chers frères. À commencer par la foi. Tout est gênant. Tout gêne l'homme naturel. Croyez-moi, mes très chers frères, si nous avons l'habitude de prendre le nom du Seigneur en vain, que Dieu nous garde, si nous avons l'habitude même de parler de notre Seigneur, historiquement parlant, d'une façon qui n'est ni orthodoxe ni correcte, et il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, si nous prenons cette discipline de faire une légère inclination de la tête chaque fois que nous prononçons le nom de notre Seigneur, alors vous allez voir que d'une certaine manière, ça va réguler le nombre de fois que vous allez utiliser ce nom. D'une certaine manière, la piété va utiliser un certain respect humain. C'est-à-dire que si à chaque fois que je cite le nom de notre Seigneur, je dois faire une petite inclination de tête, en fait, je vais moins le citer. Parce que ça m'embête de le faire. Vous voyez, comme nous sommes méchants, comme nous sommes véritablement cela va réguler. Ensuite, allant un peu plus loin, nous allons nous apercevoir que, effectivement, si à chaque fois que nous citons le nom de notre Seigneur, nous devons faire une petite inclination de tête pour marquer le respect, alors ça veut dire que nous allons commencer à comprendre que nous ne pouvons pas utiliser à tort et à travers son nom. Nous ne pouvons pas, évidemment, raconter ces histoires, des histoires drôles, des blagues, etc., évidemment, mais le chrétien ne le fait pas. Où notre Seigneur le nom de notre Seigneur entrerait. Nous ne pouvons pas non plus citer les paroles d'un mécréant qui cite le nom de notre Seigneur. Nous allons prendre des périphrases. Nous allons remplacer le nom ineffable du Fils de Dieu par le nom de sa qualité qui est le Christ. Il faut aussi vénérer le nom du Christ, c'est-à-dire le Messie, mais le Messie, c'est la fonction. Quand on dit Jésus-Christ, effectivement, c'est le Messie appelé tel que Dieu a voulu qu'il soit appelé. Donc nous allons prendre conscience que bien souvent nous utilisons le nom de notre Seigneur dans des conditions qui ne s'accordent pas avec la vénération que nous devons lui rendre et que nous devons avoir pour lui. C'est-à-dire quand on parle de notre Seigneur d'un point de vue, ce qu'on appelle, ce qu'on dirait, purement historique. Quand on dit au temps de notre Seigneur, ben on ne va pas le dire. Notre Seigneur, c'est pas Jules César ou c'est pas même Saint-Pierre. Au temps de Saint-Pierre, etc. Au temps de notre Seigneur. Vous voyez, c'est l'école nous a appris à parler comme cela. Je ne jette pas la pierre à l'école, de toute façon, c'est la pure mécréance. Mais attention, parlons en chrétien. Prenons cette habitude, mes très chers frères, de chaque fois que nous disons le nom que Dieu a fait donner à son Fils, de faire une petite inclination de tête. Vous allez voir, la vénération du nom de Dieu va vite devenir une réalité. 3 jours, et vous aurez pris l'habitude. Moins si vous avez l'habitude de parler, ou si vous avez l'occasion de parler plus souvent avec les gens de notre Seigneur. Faisons très attention lorsque nous prononçons son nom. Je dirais même que nous devons faire attention, surtout aujourd'hui, de ne pas prononcer son nom autrement qu'en l'assortissant des paroles « Notre Seigneur », le nom que Dieu lui a donné. Vous allez dire, beaucoup de gens qui croient en lui utilisent simplement son nom, son prénom, comme nous pourrions dire. Effectivement. Et nous dirions même, pour surenchérir, et je parle par exemple des modernistes, des protestants, etc., souvent, même des traditionalistes. Vous allez dire, c'est ainsi que dans les évangiles, on le nomme. Il n'y a pas tout un apparat pour citer son nom. Lorsque son nom intervient, c'est son nom, point. C'est vrai, mais nous ne sommes pas des évangélistes. Nous sommes des chrétiens. Dans un temps d'extraordinaire profanation du nom de Dieu. Donc, ne disons jamais « a dit que »,« enseigne que », disons notre Seigneur Jésus-Christ, le nom plein, notre Seigneur. Chaque fois que, si nous avons des mauvaises habitudes de langage, parce que nous avons une piété mais qui doit être mieux réglée, disons plus, chaque fois que nous disons le nom que Dieu lui a fait donner, disons plutôt notre Seigneur. Alors vous allez dire, on dirait qu'on a honte de confesser son nom. Et puis vous allez dire, il y a aussi, par exemple, les Juifs ne prononcent jamais son nom, parce qu'ils en ont horreur. Il y a 2 façons de s'abstenir de citer quelqu'un, c'est quand on a trop de respect pour lui, beaucoup de respect pour lui ou beaucoup de haine. Si vous avez un ennemi, vous ne citez jamais son nom parce que ça vous fait mal de le dire. Puis si vous avez quelqu'un que vous vénérez beaucoup, et je ne parle pas comme les stars, etc., comme font les mondains, mais si vous avez quelqu'un, c'est votre père, votre prêtre, votre évêque, etc., vous n'allez pas utiliser son nom à tort à travers parce qu'il y a un aspect comique. Si vous utilisez trop souvent le nom, il y a des comiques qui font rire uniquement en répétant constamment le nom de quelqu'un, la personne à laquelle il s'adresse, constamment dans une phrase, de telle sorte que ça devient ridicule. notre Seigneur. Dans l'apologétique, si vous avez à parler à des mécréants, qu'ils soient catholicoïdes ou mahométans ou juifs ou autres, et qui parlent de notre Seigneur en utilisant simplement son nom, sachez que dans la bouche de la plupart de ces gens, c'est parce qu'ils le méprisent. Ne vous laissez jamais, mes très chers frères, aller à répondre du tac au tac en disant « Oh, mais oui, mais justement, dit que, on enseigne que. » Non, notre Seigneur. Alors évidemment, ça va les vexer. Vous ne voulez pas vexer les gens parce que vous êtes des gens polis, c'est très bien. Ne leur donnez pas la satisfaction de vous avoir entraîné à utiliser d'une façon légère le nom de notre Dieu. Vous voyez un petit peu, il ne faut pas le faire parce qu'il ne faut pas rendre le mal pour le mal, mais vous voyez un petit peu si ils apprécient qu'on cite aussi légèrement les noms de ceux qu'ils adorent ou qu'ils vénèrent. Il ne faut pas le faire, parce qu'il ne faut pas faire aux autres ce que nous ne voudrions pas qu'on nous fasse. Mais ne disons jamais le nom de notre Seigneur tout nu, si j'ose dire, à notre époque. Alors vous allez dire, mais j'ai lu certains livres qui le font. Nous sommes au XXIe siècle, mes très chers frères, il faut entourer le nom de Dieu d'une multitude de précautions oratoires, de peur que nous-mêmes, nous soyons entraînés par mégarde à blasphémer le saint nom de notre Sauveur, nom unique par lequel nous puissions être sauvés. Il faut donc, mes très chers frères, que nous nous abstenions absolument de prononcer le nom de notre Dieu si ce n'est pas pour l'honorer. Alors vous allez dire, et quand nous entendons des gens blasphémer, je vous dirais tout d'abord, ne tolérons pas le blasphème. Ne tolérons pas le blasphème, mais je m'empresse de dire, ne veillons aussi à ne pas céder à la passion. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un blasphème le nom de Dieu, il ne blasphème pas notre nom à nous. Vous allez dire, mais le nom de chrétien, mon nom est... Oui, vous savez comme est la nature humaine. On corrompt ce qu'il y a de meilleur. Ne laissons pas une irritation de voir un mahométan, ou pire, nous défier, passer à nos propres yeux pour de la piété. Ne tolérons pas le blasphème, mais ne cédons pas à la passion de justicier, d'être des justiciers autoproclamés. Lorsque nous entendons un blasphème, si nous entendons un blasphème dans la rue, si nous entendons un blasphème ailleurs, et sur lequel nous n'avons pas de. Sur le celui qui l'a prophétisé, nous n'avons pas de puissance, disons dans notre cœur, Dieu soit béni. Vous savez, les invocations que nous disons devant le Saint-Sacrement. C'est en réparation des injures faites à notre Dieu, des réparations des blasphèmes. Il vaut mieux ne rien dire à un blasphémateur sur lequel on n'a pas de puissance, plutôt que de l'attaquer d'une façon qui sera incompréhensible pour lui, ou purement passionnelle, il faut réparer. Sachant que le blasphémateur est digne de mort, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu lui-même. Celui qui invoque le nom du Seigneur en vain doit être lapidé. Et cette loi est toujours en vigueur, au moins théoriquement, puisque nous savons que le saint roi Louis IX faisait percer d'un fer rouge la langue de ceux qui blasphémaient. C'est une chose tout à fait licite, c'est une chose qui est bonne. Personnellement, je pense que une peine de fouet telle qu'elle se pratique dans les pays arabes suffirait. Mais il se trouve, je dis ça parce que le pape à l'époque avait trouvé cela quelque peu excessif. Mais enfin bon, tout le monde est d'accord pour dire qu'une peine de fouet est suffisante pour un blasphémateur. Puis s'il continue, alors ça c'est autre chose. On blasphème, mes très chers frères, quand on prononce le nom divin sans l'adorer. Donc faisons très attention. Nous entendons des blasphèmes, certes, mais peut-être que nous sommes blasphémateurs nous-mêmes. Donc ce n'est pas pour minimiser la gravité des blasphèmes qui sont proférés par les mécréants, c'est pour dire que nous devons être nous-mêmes très attentifs à ne pas blasphémer. Prononcer le nom divin sans l'adorer, c'est blasphémer. Donc vous avez dit, on ne peut pas toujours y penser. Alors pourquoi est-ce que vous citez le nom de notre Seigneur si vous ne pensez pas à l'adorer? Réfléchissez 2 minutes. On blasphème le nom de Dieu lorsque on le méprise Par exemple, en dissociant l'Église de son divin époux. Vous savez, ceux qui méprisent le Christ tout en étant farouchement pro-catholiques. Le Christ est une sorte de rabbin fou, et l'Église, c'est le monument de la pensée gréco-latine. C'est un blasphème. Ceux qui méprisent le Christ de cette façon-là, mes très chers frères, ce ne sont pas, vous l'avez remarqué, des mahométans, des juifs, etc. Ce sont souvent des gens qui sont très proches des catholiques, en tout cas de certains. Ce sont des gens avec lesquels les catholiques semblent, certains catholiques du moins, semblent pouvoir s'allier. Ce sont des gens qui, lorsqu'ils parlent, je peux résumer avec des catholiques, le discours se résume à ceci, peut se résumer à ceci. Le mécréant. Pour moi, le Christ est une sorte de youpin subversif. Le chrétien. Pour moi, le Christ est Dieu, les deux, mais mis à part cette divergence, nous sommes d'accord sur tout. Mes très chers frères, comment peut-on supporter la présence, la vue, la parole, les livres, les vidéos, etc., des gens qui blasphèment notre Seigneur? Ces gens-là, je le dis très haut, mes très chers frères, non seulement ils ne peuvent absolument en rien être les alliés des catholiques, mais ces gens-là qui méprisent le Christ méritent de devenir les esclaves des Juifs et les proies des mahométans. Et c'est ce qui va leur arriver. Et tous ceux qui s'allient avec eux. On ne peut pas mépriser notre Seigneur et combattre pour l'Église. C'est un blasphème. Lorsque, je termine très rapidement sur cette histoire du blasphème, lorsque l'on entend des blasphèmes et que ce sont des gens avec lesquels nous sommes en relation, c'est-à-dire qu'ils peuvent, que nous sommes en relation réelle avec eux, par exemple si nous entendons des proches blasphémer, éventuellement des collègues de travail, il y a toute une casuistique pour savoir comment faire, mais il faut que nous nous dissocions totalement de ce qu'ils font. Nous ne devons pas avoir un petit sourire gêné. Nous sommes dans un contexte heureux, joyeux, détendu, et qu'il y a un blasphème, tout d'un coup, nous devons devenir glaciaux. Si ce sont des parents, et que nous sommes leurs enfants, nous devons devenir très distants, et dire ce que vous dites est mauvais. Nous ne pouvons pas faire plus, puisqu'il faut respecter les parents, même blasphémateurs. Mais nous devons nous dissocier d'eux. En aucun cas, mes très chers frères, nous ne devons laisser entendre que cela ne nous fait rien. Et si ce sont des inférieurs, alors ça dépend, le cas d'inférieur, cette catégorie est assez, il doit être défini en modernité, mais si ce sont des inférieurs, alors ça peut aller, si un patron catholique entend blasphémer ses ouvriers, après quelques réprimandes, il peut les mettre à la porte. Si un père entend ses enfants blasphémer, évidemment, il a le droit de les corriger, mais je dois dire que si un père catholique entend ses enfants blasphémer, c'est qu'il y a quand même un problème du côté du père, sans doute. Alors que chacun se juge soi-même. Donc, nous qui, par la grâce de Dieu, honorons son nom sur la terre, qu'il nous soit donné de pouvoir jouir de son visage dans le ciel. Vénérer le nom du Christ, mes très chers frères, c'est conformer sa vie aux maximes de l'Évangile. C'est obéir à la loi de Dieu sans l'atténuer, sans la modifier, sans l'adultérer. Vous voyez, on ne peut pas être un adorateur du Christ quand on dit que finalement il n'y a aucun problème à travailler le dimanche, qu'il faut être assez libéraux et que assez libéral et que d'une certaine manière, c'est absolument impossible. C'est un blasphème implicite. Pourquoi ? Parce que le Dieu qui nous a donné son Fils nous a interdit de travailler le dimanche. Ceux qui sont pour le travail du dimanche blasphèment donc la bonté de Dieu et ses commandements. Tout est blasphème d'une certaine manière, tout péché est blasphème, même si le blasphème est un péché à part entière, donc on ne doit pas tout mélanger, bien entendu, mais d'une manière ou d'une autre, ce n'est pas la peine de regarder les gens qui crucifient des vaches dans des églises, comme on a vu en Belgique l'année dernière, ils ne sont pas particulièrement plus blasphémateurs qu'un chrétien qui dit qu'on peut travailler le dimanche, nonobstant la loi de Dieu. Après tout, chez l'un c'est voyant, l'autre c'est moins voyant, donc c'est plus mortifère. Celui qui crucifie une vache dans une église ne peut difficilement passer pour un bon chrétien. Celui qui atténue la loi de Dieu peut passer très bien pour un bon chrétien aux yeux des mauvais chrétiens. Sanctifier le nom de Dieu, sanctificetur nomen tuum, c'est le vénérer, c'est non seulement s'abstenir de blasphémer, c'est la moindre des choses, mais encore, c'est s'abstenir d'être cause que le nom de Dieu soit blasphémé, selon ce que dit l'apôtre, à cause de vous, le nom de Dieu est blasphémé. Lorsqu'un chrétien se comporte mal, et que l'on dit, ah ben voilà, c'est comme ça que les chrétiens se comportent, il est la cause du blasphème du nom de Dieu, et c'est pire que si c'était lui-même qui disait des jurons. Vénérer le nom de Dieu ici-bas, c'est jouir de sa vue dans les cieux. Comme la grâce est semence de gloire, de même la sanctification du nom divin sur terre résulte dans la contemplation face à face au ciel. Par conséquent, mes très chers frères, nous pouvons, par conséquent, ne pas vénérer, c'est-à-dire ne pas aimer, ne pas obéir, etc., au Christ, c'est mériter l'enfer éternel qui est la privation de la vision béatifique. Et là, évidemment, on entend les ricaneurs dire « Oh, bah, si ce n'est que ça, moi je m'en passerai bien. Je n'ai pas envie de passer toute mon éternité à contempler la face de Dieu. » Le problème, mes très chers frères, c'est qu'il n'y a que la face de Dieu dans l'univers. L'univers n'est que le miroir dans lequel la face de Dieu se reflète. Et lorsque l'univers aura été réduit à sa plus simple expression, lorsque les méchants seront à gauche et que les bons seront à droite, eh bien, il n'y aura plus que la face de Dieu et la privation de la face de Dieu, qui seront deux états dans lesquels les créatures se trouveront. Faisons très attention. Ne pas vénérer le nom de Dieu ici-bas, c'est se priver de toute possibilité de vision béatifique. Et nombreux sont ceux qui, ici-bas, combattent pour l'Église, pour la chrétienté, l'Europe, que sais-je, et qui seront privés, s'ils continuent, que Dieu les garde, que Dieu les sauve, et nous prions pour eux, mais qui seront privés de la vision béatifique parce qu'ils auront blasphémé le nom de Dieu ici-bas. Qu'est-ce que l'enfer? Si le ciel, c'est la contemplation de la face de Dieu, du Dieu dont nous aurons honoré le nom, vénéré le nom ici-bas, si c'est la contemplation de la face de Dieu, eh bien qu'est-ce que l'enfer? L'enfer, c'est le fait d'être précipité en soi-même qui est le pire des châtiments. Vous allez dire, je pensais que c'était le feu, les flammes, bien sûr. Mais au sein du feu et des flammes, il y a le remords. Et le remords, c'est le fait de ne pouvoir s'en prendre qu'à soi-même de son propre malheur. Et pourtant, mes très chers frères, il y a quelque chose de terrible dans l'enfer, c'est que la situation, l'état des damnés, n'est autre ici-bas sur terre que la racine de notre concupiscence, qui est de s'aimer soi-même aux dépens de Dieu. Lorsque l'on détourne le regard de l'Évangile, de l'Église, de son devoir, et que l'on tombe en soi-même, que l'on fait ce que l'on veut, que l'on s'aime soi-même, qu'on se contemple soi-même, quand je dis soi-même, c'est le mauvais soi-même, hein, eh bien, d'une certaine manière, si nous n'étions pas sur terre, et que nous étions dans l'éternité, ce serait l'enfer. Comment se fait-il que ce qui est quand même réputé être douloureux dans l'au-delà, soit pour nous, ici-bas, sur terre, la source presque unique de toute notre jouissance? C'est que nous ne sommes pas ce que nous devons être et que nous ne faisons pas ce que nous devons être. Vénérer le nom de Dieu, se détourner de soi-même, dans le bon sens du terme, et se tourner vers Dieu, rechercher la face de Dieu, vénérer le saint nom de Dieu, c'est véritablement être ce que Dieu veut que nous soyons et c'est correspondre à notre nature. Méfiez-vous des gens qui vous disent il faut que l'homme suive la loi de Dieu et puis surtout la loi naturelle. La loi naturelle, c'est d'être pour Dieu. La loi naturelle, les trois premiers commandements de la loi naturelle, c'est l'amour de Dieu, le respect de Dieu, le respect des fêtes de Dieu et l'interdiction des idoles. C'est ça la loi naturelle. La loi naturelle, c'est pas la culture de vie, que sais-je. La loi naturelle, c'est aimer Dieu, c'est être pour Dieu. Dieu n'a pas créé un homme pour qu'il soit pour lui-même, mais pour qu'il soit pour Dieu. L'enfer, c'est d'être privé de la contemplation de la face divine, c'est-à-dire privé de l'aboutissement que Dieu veut pour la nature humaine. Alors tous ceux qui veulent être des humains, tous ceux qui veulent être des hommes, tous ceux qui se plaignent d'être considérés comme des chiens et des microbes par d'autres religions, feraient mieux de correspondre à ce que Dieu veut pour la nature humaine, plutôt que d'être des athées et de donner raison, finalement. Qu'est-ce qu'un athée? C'est un cafard, c'est un chien, c'est une ordure, c'est un porc, c'est une hyène. Un athée, c'est un sous-homme. Voilà, pour ceux qui s'imaginent être des surhommes et qui ne sont pas chrétiens. Les chrétiens ne se prennent pas pour des surhommes. Les chrétiens savent qu'obéir à Dieu, que rechercher la face de Dieu, c'est véritablement aller au-delà de ce faux soi-même que nous avons reçu par la chute, et c'est être véritablement ce que Dieu veut que nous soyons en tant qu'être humain. Il n'y a pas de civilisation sans religion. Il n'y a pas de salut sans notre Seigneur Jésus-Christ. Je répète, il y a un aveuglement terrible dans les contempteurs du Christ, et les catholiques ne peuvent en aucun cas bâtir avec eux, et même, je rajoute maintenant, que les catholiques qui veulent à tout prix bâtir avec les contempteurs du Christ, nonobstant leur blasphème, ils imaginent qu'ils ont de bonnes idées, les catholiques non seulement ne peuvent rien bâtir avec eux, parce que c'est un fait, si c'était possible, ça se saurait, ça fait quand même 50 ans qu'on est dans la pagaille, donc ça se saurait, même plus. Si nous pouvions bâtir avec eux, ça se saurait, mais en plus, ils attirent la malédiction divine. C'est-à-dire que quand vous avez un bon catholique qui croit vraiment qu'en dehors du Christ, on ne peut pas être sauvé, etc., sans le Christ, on ne peut pas être sauvé, ce qui est fort bien, c'est la moindre des choses, et qui s'allie avec quelqu'un qui méprise le Christ, la colère de Dieu qui va s'abattre sur celui qui méprise le Christ s'abattra aussi sur tout ce qui est à côté de lui. Dans la secrète, et nous terminons par ces considérations, que nous devons malheureusement un peu abréger, dans la secrète, qui est une très longue secrète en réalité, d'habitude les secrètes sont très courtes, mais, pardon, pas la secrète, la post-communion. La secrète est aussi longue, mais c'est plutôt la post-communion. La post-communion est très longue. Eh bien, cette prière est aujourd'hui très longue, comme nous venons de le dire, et elle contient une doctrine fondamentale. Lisons-la rapidement. Dieu Tout-Puissant et Éternel, qui nous avait créés et rachetés, soyez propices à nos vœux, propices à nos vœux, daignez agréer avec bonté ce sacrifice de la victime du salut, pour que, veuillez daignez agréer avec bonté ce sacrifice de la victime du salut que nous vous avons offert pour honorer le nom de votre Fils. Et répandez votre grâce dans nos âmes, afin que nous ayons la joie d'avoir nos noms inscrits dans les cieux, à la suite du glorieux nom de Jésus, au livre de l'éternelle prédestination. Il y aurait tant de choses à dire, malheureusement, ce sera pour une prochaine fois, Dieu voulant. Dans la post-communion, donc. Notre création et notre recréation sont évoquées et sont mises en lien avec le Dieu Tout-Puissant, Omnipotens Aeternae Deus. Notre création et notre rédemption dépendent du Dieu qui ne dépend pas de nous, et encore moins de notre bon vouloir initial. Nous lui demandons à ce Dieu qui peut tout et qui nous aime, nous lui demandons de nous être favorables à nous qui avons offert le Saint Sacrifice, c'est-à-dire le prêtre et les fidèles unis à lui. Offrir le Saint-Sacrifice de la messe, c'est sanctifier le nom du Christ d'une façon toute particulière. Si quelqu'un, si un prêtre offre le Saint-Sacrifice et ce n'est pas et sans vouloir honorer le nom du Fils de Dieu, eh bien, il fait quelque chose qui déplaît absolument à Dieu. Et quand on déplaît absolument à Dieu, on va bientôt recevoir le châtiment de Dieu, la colère de Dieu est sur nous. C'est pour ça, mes très chers frères, j'ouvre encore une petite parenthèse pour dire, ne vous embarrassez pas trop des considérations, des messes noires, des sacrilèges, etc. Ne vous inquiétez pas, notre Dieu n'est pas découronné, notre Dieu se vengera de tous ces gens-là. De toute façon, la plupart de ces gens qui font ça deviennent fous, deviennent malades, et eux-mêmes le disent. À force de faire de la magie, ils attrapent des cancers, ils attrapent des choses infâmes, et ils terminent dans les asiles, du moins, ils terminent complètement frappés par la colère de Dieu. Donc ne soyons pas là en train de pleurnicher sur les messes noires, sur les sacrilèges, pleurons plutôt sur nous-mêmes, mes très chers frères, qui bien souvent Les prêtres offrent un sacrifice sans trop se concentrer sur ce qu'ils font, et ça c'est très mal. Il faut que chaque messe soit la seule messe de notre vie. Et quant aux fidèles, parce qu'il n'y a pas que pour les prêtres aussi, les fidèles aussi, qui sont distraits dans la messe, qui font n'importe quoi, qui pensent à toutes sortes de choses, ils blasphèment le nom de Dieu. Ils ne peuvent pas, à la fin de la messe, dire « Seigneur, nous vous avons offert ce saint sacrifice pour honorer votre nom. Mon nom, vous l'avez déshonoré en pensant à toutes sortes de choses qui n'ont non seulement rien à faire dans une église, mais même dans la vie d'un chrétien. » Pourtant, quel bonheur que d'offrir le saint sacrifice pour honorer le saint nom de Dieu. Et normalement, c'est notre intention, avec l'aide de Dieu. Donc c'est par la grâce répandue en nous, qui est désignée par cette expression merveilleuse, « ut tua gratia nobis infusa », la grâce infuse, mais c'est pas, ça peut induire en erreur. Une grâce répandue sur nous, d'une façon efficace. Nous, par cette grâce, qui provient de la récompense d'avoir offert par la grâce de Dieu un sacrifice à la gloire du nom de Dieu, et bien par cette grâce, nous dit cette oraison, c'est à cette grâce que nous devrons la joie de notre prédestination, c'est-à-dire de sa réalisation. Répandez votre grâce dans nos âmes, afin que nous ayons la joie d'avoir nos noms inscrits dans les cieux, au livre de l'éternelle prédestination, à la suite du glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienheureux ceux dont les noms sont inscrits dans le livre de vie. Nul de ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie ne peut en être effacé. Nul de ceux qui n'y est pas inscrit ne peut y être inscrit. Il y a de quoi trembler, mes très chers frères. Les jeux sont faits depuis longtemps, depuis la fondation du monde. Il se trouve que nous devons simplement vérifier si nous sommes les enfants de Dieu ou pas. Et si tout ce que nous avons dit sur la glorification, la vénération et la sanctification du nom de Dieu nous paraît quelque chose de fastidieux et de pitoyable, alors, mes très chers frères, il faut prier très fort afin que nous ne soyons pas, que nous ne figurions pas par malheur parmi ceux auxquels Dieu refuse sa grâce, parce qu'il le pourrait fort bien. Et nous qui avons trouvé ce discours tout à fait orthodoxe et peut-être même qui déjà le mettons en pratique, j'espère, demandons-lui de nous confirmer dans cette grâce. Parce qu'après tout, nous pouvons avoir bien commencé et puis mal finir, ça se serait déjà vu. Fléchissons les genoux, mes très chers frères, volontairement, par la grâce, devant lui, afin que sa venue glorieuse terrasse, avant que sa venue glorieuse terrasse les impies, les blasphémateurs. Lâchons vite les mains des impies, qui risquent de, par leur chute, nous entraîner avec eux dans l'abîme, tournons-nous vers Dieu et disons-lui que votre nom soit sanctifié sur la terre comme au ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Ainsi soit-il.